La fabrique citoyenne. La fabrique citoyenne, imaginée par AnimaFac, réseau national d'échange d'expériences et de ressources pour les initiatives étudiantes, est un dispositif mis en place pour répondre à certaines problématiques. La participation citoyenne se limite-t-elle à déposer un bulletin dans une urne tous les 5 ans? Quelle est la place de la jeunesse française dans le débat public? Les sujets politiques sont-ils trop complexes pour que les citoyens s'y intéressent et y prennent part? Et s'ils le faisaient, quelle vision ou modèle de société et quelles mesures en découleraient? La fabrique citoyenne a cherché à répondre à ces questions en réunissant 40 jeunes, 10 heures par jour durant 6 jours, au sein d'un dispositif savamment réfléchi. Ce groupe de 40 jeunes de 16 à 30 ans a été composé par un institut d'études de marché afin d'être représentatif de la diversité d'âge, de genre, de situation sociale, scolaire, professionnelle et de sensibilité politique de la jeunesse française. Réunis durant 6 jours, dont 3 ont été dédiés à l'information et la formation avec des experts qui ont apporté des positions pluralistes et contrastées, et 3 autres jours de délibération collective, un temps d'échange, de débat, d'écoute, durant lesquels ils sont passés du « je » au « nous » en transformant les opinions individuelles en propositions collectives. 50 propositions en sont ressorties autour d'une question: dans quelle société souhaitons-nous vivre en 2017? Vaste question déclinée sous 3 grands axes: l'école, l'économie et l'Europe. Les travaux et propositions réalisés ont été ensuite remis à chaque parti représenté aux élections présidentielles, qui ont tous été invités à y réagir au cours d'un débat organisé lors du Forum national AnimaFac à la Halle de la Villette le 17 février dernier. Lors de ce débat, les 40 jeunes de la fabrique citoyenne ont présenté leurs travaux aux 5 partis ayant répondu à l'appel, à savoir Europe Écologie, représentée par Eva Joly, l'UMP, représentée par Benoît Apparu, le Modem, représenté par Jean-Noël Martin, Martine Billard pour le Front de Gauche et Vincent Payon pour le Parti Socialiste. Un débat que la Grenouille vous propose de revivre chaque jour jusqu'à dimanche à 18h30. Aujourd'hui, c'est Jean-Noël Martin, représentant le Modem, qui se voit confronté aux propositions de la fabrique. Un débat dans lequel vous êtes projeté un peu brutalement, puisqu'à cause d'un incident technique, les 15 premières secondes ont disparu. Je vous laisse donc avec Jean-Noël Martin au moment où il réagissait en ce début de débat à la démarche de la fabrique citoyenne. Bonne écoute.
Quel est l'idéal républicain, quel projet de société on porte encore en vivre ensemble. Parce que si évidemment il faudra apporter des réponses concrètes, le liant de la société, le fait qu'on ait un pays, le fait qu'on ait une communauté de citoyens, cette communauté elle est vivante, elle est ambitieuse, elle est en dynamique parce que nous avons un idéal commun. Et cet idéal commun, alors on pourra en débattre, François Bayrou lui vient d'en définir un dans un livre qui est sorti cette semaine, et un programme du même nom qui s'appelle La France solidaire et qui dit c'est justement ça, notre modèle, c'est justement ça l'idéal. C'est justement ça, la société dans laquelle nous voulons vivre, c'est une société solidaire, parce que autour de cette question des valeurs et notamment autour de cette question de la solidarité, on va créer les nouveaux mécanismes de vivre ensemble et les mécanismes de redressement. J'en prends quelques-unes pour montrer que ce débat de valeurs, ce débat de projet de société, il est intéressant. C'est que si on se dit que la société dans laquelle on veut vivre, et moi je retrouve à certains titres dans ce que vous avez défini comme étant ce qui comptait pour vous, la gratuité de l'école, la qualité de l'école, l'accessibilité, la culture, sont des choses que vous avez mentionnées qui, pour vous, font partie des éléments du modèle de société qui vous plaisent et dans lequel vous trouvez que la France doit se défendre. Eh bien, ce sont des éléments qui font typiquement partie d'un pacte de valeurs qui est celui qui s'orchestre autour du mot solidarité. Parce que dans la solidarité se trouvent évidemment les réponses à la crise, au redressement, parce qu'il y a, sur les questions d'emploi, d'économie, on s'en sortira pas si on ne crée pas de nouvelle solidarité entre ceux qui travaillent et ceux qui malheureusement n'ont pas la chance de travailler, entre les grandes entreprises du CAC 40 et les multinationales et les PME qui vont demain créer de l'emploi, créer de la valeur, créer de la richesse et pas seulement monétaire, de la richesse humaine et sociétale. Si on ne crée pas de nouvelles solidarités entre les étudiants qui ont eu la chance de réussir et ceux qui ont décroché scolairement plus tôt, toutes ces solidarités, je ne vais pas les décliner parce que j'espère avoir l'occasion de le faire sur l'école, sur l'économie et sur l'Europe, mais je voulais vous dire que moi, cette question du modèle de société tel que vous vous l'avez interrogé, je trouve que c'est le bon angle et on devrait, dans cette campagne présidentielle, plus souvent en parler. Et je suis ravi que ce soit des jeunes qui l'aient fait et qui l'aient mis au débat public. Et j'en suis d'autant plus ravi parce qu'il y a une facilité dans le langage politique qui est souvent de dire que c'est très important pour les politiques de s'intéresser aux jeunes. Parce que c'est très important parce que les jeunes, c'est la France de demain, disent-ils. Et je crois que vous démontrez avec la Fabrique citoyenne que la France, c'est les jeunes d'aujourd'hui, pas ceux de demain, qui ont déjà des envies pour aujourd'hui, qui ont déjà des décisions à prendre pour aujourd'hui, qui ont déjà des choses et des propositions à faire pour la France d'aujourd'hui et pas seulement celle de demain. Et de ce point de vue-là, François Bayrou a, je crois, un angle que vous ne mentionnez pas et que peut-être c'est l'élément, moi, que j'ai trouvé manquant, mais évidemment, on a un prisme en regardant ça. C'est que cette génération que vous représentez, et je veux dire que je représente aussi un peu, je ne suis pas si éloigné de vous que ça. Cette génération, la nôtre, elle a des questions à poser aux gouvernants qui viennent de se succéder depuis une trentaine d'années, sur le pays qu'elle nous laisse. Vous avez cité dans le diagnostic le sentiment d'appauvrissement du pays dont vous avez l'impression, perte d'emploi, perte de pouvoir d'achat, perte de l'influence de la France dans le monde, dégradation de l'école. Vous avez évidemment des comptes à demander aux gouvernants là-dessus. Et puis nous avons, en tant que génération, des comptes à demander plus spécifiquement sur la dette et les déficits. Depuis 30 ans, les décideurs publics ont mis sur nos épaules, notre génération, une montagne de dettes, milliards d'euros après milliards d'euros, pour arriver aujourd'hui, comme vous le savez, à près de 1 800 milliards d'euros. Et pas seulement de la dette pour financer des grands équipements, les universités, les grands aménagements publics, qui évidemment, je commence à être trop long, presque, qui évidemment sont des équipements partagés dont on bénéficiera tous, mais pendant 30 ans, les décideurs ont payé les fonctionnaires, ont payé les feuilles de sécu, ont payé le train de vie de l'État au quotidien sur notre avenir. En se disant, bah, on ne peut pas boucler le budget, c'est pas grave, on emprunte, ce sont les générations futures qui vont payer. C'est, je crois, l'engagement majeur que François Bayrou prend à l'égard de notre génération, c'est celle d'arrêter cette course effrénée et abyssale aux dettes et aux déficits qui fait que nous sommes la génération qui allons devoir rembourser les dettes de nos prédécesseurs et des générations précédentes. Et donc c'est l'engagement, vous le savez, François Bayrou a fait de ce combat pour la dette et les déficits son combat majeur, et je crois que c'est un vrai combat pour les générations futures, au même titre que la question environnementale. C'est deux questions, c'est les questions fondamentales des gouvernants si on veut vous laisser, et donc nous laisser, un monde, je dirais, à la hauteur de tel que nous l'avons reçu, une société aussi belle que nous l'avions reçue.
Merci. Donc on attend déjà ce que quelques représentants de cette génération ont à nous dire sur l'école, et je me tourne vers Claire. Donc Claire, tu vas nous parler de l'école. Tu as 26 ans, tu habites Marseille, et tu y es étudiante en tourisme.
Oui, donc Monsieur Martin, bonjour. Donc nos propositions vont dans le sens d'un changement radical de l'école, pour que l'école assure réellement à tous les élèves une égalité des chances et de réelles possibilités de choisir son avenir. Ce changement radical concerne 5 points. La façon d'enseigner les contenus, en se centrant sur le socle commun, par la nécessité d'apprendre à apprendre, ainsi que par une approche pluridisciplinaire des matières. Le mode de fonctionnement, une école ouverte sur la cité, davantage d'entraide entre étudiants pour remplacer l'esprit de compétition. Les rapports entre élèves et enseignants, avec notamment d'autres modes d'évaluation. La formation des enseignants, ainsi que l'orientation et ou la réorientation afin de lutter contre l'échec scolaire. Donc, après avoir pris connaissance de nos propositions autour de l'école, quelles sont celles qui ont particulièrement retenu votre attention, positivement ou négativement, et pourquoi ?
Alors, je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a beaucoup de questions évoquées. Je vais me concentrer sur quelques-unes, notamment la question des contenus parce qu'elle est fondamentale. Et la question des contenus, la question de l'ambition d'égalité des chances, la question de la solidarité entre ceux qui décrochent et ceux qui n'ont pas décroché, entre les étudiants, cette question de la France solidaire que défend François Bayrou et que vous appelez finalement sortir de la compétition en créant des vraies solidarités entre les étudiants. Ces questions, elles sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de pas passer 5 minutes ou 10 minutes sur, je vais rajouter 6, 12, 15, 20, 25 000 profs en plus, à la fois parce qu'on n'a pas les moyens pour les questions de déficit que j'ai évoquées, parce que probablement c'est pas la question. Sur les contenus, nous on partage cette question de la formation apprendre à apprendre. Il y a juste une précision que nous on fait, c'est que l'élément clé pour apprendre à apprendre, mais au-delà de ça, pour faire de l'école à nouveau le lieu d'intégration des enfants qui sont nés ailleurs ou dont les parents sont nés ailleurs et qui viennent trouver toute leur place dans la société française. La résolution de la violence, d'une certaine manière aussi, il y a un élément clé. Tout ça, c'est le même, c'est la langue. Sans un vrai retour à un socle commun, mais qui est même essentiellement basé sur la langue, on n'arrivera pas ni à l'égalité des chances, parce que c'est la première des inégalités. Si vous comprenez mieux que votre voisin de classe, y compris un cours de maths, parce que votre français est plus facile que votre voisin de classe, alors déjà il y a une inégalité. Si vous n'avez plus les moyens, d'autres moyens que la violence pour exprimer ce que vous pensez, parce que vous ne maîtrisez pas tous les mots, vous ne maîtrisez pas toute la langue, alors vous allez arriver à la violence. Ça, seul l'apprentissage de la langue peut permettre de le résoudre. Et comment voulez-vous apprendre à apprendre ? C'est-à-dire aller chercher de l'information. Aujourd'hui, aller sur Google, sur Wikipédia, et puis faire preuve de votre sens critique, et puis recouper les sources, si vous n'avez pas une maîtrise parfaite de l'écrit, de l'oral, de la compréhension des textes. Et ça, pour nous, c'est en matière de contenu l'objectif majeur. En tout cas, pour les 5 prochaines années, on pourrait tout promettre, mais la priorité doit être celle-là, la langue, parce qu'elle résout tant et tant de problèmes. Et c'est pour ça que François Bayrou a proposé qu'on arrive à 50% du temps à l'école primaire qui soit consacré à l'apprentissage de la lecture, de l'écriture. Et de lecture, de l'écriture et de la compréhension des textes, parce que c'est fondamental pour tout le reste, et c'est comme ça qu'on ne décrochera pas un certain nombre d'enfants. Donc cette proposition que vous appelez le bloc apprendre à apprendre, moi je vais l'élargir et me permettre de l'élargir en disant qu'elle a retenu notre attention, en disant que c'était probablement, c'est la question de la langue qui permet de le faire. Il me reste 2 minutes pour savoir ce que je vais garder. On est d'accord, je vais aller très vite, sur ouvrir quelques temps scolaires supplémentaires pour l'apprentissage de choses plus individuelles, centrées sur le parcours de l'élève, pratiques artistiques, pratiques culturelles, pratiques sportives. Ça, nous partageons. Nous partageons également le retour à une année de formation pour les enseignants et les préparants au métier d'enseignant, une année de formation telle qu'elle existait avant, avec une pratique de terrain et une année de stagiaire, entre guillemets. Nous sommes, alors c'est intéressant parce que vous avez parlé, vous, de faire de l'école un lieu démocratique, attrayant, un lieu de vie. Nous on appelle ça l'école hors les murs, c'est-à-dire qu'il faut aussi que à la fois la société puisse trouver sa place dans l'école, mais aussi que l'école sache sortir pour aller trouver des publics, des enfants, des jeunes qui ont décroché peut-être en dehors de l'institution scolaire, mais dans des cadres nouveaux qui seront à inventer, et qui seront notamment à inventer avec les partenaires associatifs, parce que eux seuls auront la souplesse, la créativité de le faire. Je dis un dernier mot en les quelques secondes qui nous restent. Vous parlez des solidarités, et nous, c'est quelque chose qui nous parle, parce que je vous l'ai dit, c'est les valeurs et le projet de société qu'on a envie de défendre, et notamment dans l'enseignement supérieur. Et il y a quelque chose qui est frappant, c'est que les équipements publics universitaires, bibliothèques, équipements sportifs, cafétérias, sont finalement terriblement fermés tôt. Et moi, je n'étais pas étudiant il y a si longtemps que ça, et je me souviens que la vie étudiante, elle commence plutôt vers 18h, plutôt qu'elle ne se finit vers 18h. Or, les BU, elles ferment justement à 18h, et qu'il y a là, en fait, une vraie idée à trouver pour trouver et pour proposer à des étudiants des petites missions, de bourses, de services civiques, de petits jobs, pour augmenter l'ouverture des équipements publics universitaires, ce qui permet à la fois de donner aux étudiants qui en ont besoin un petit complément de revenus, et à la fois d'offrir à tous les étudiants un accès aux services publics universitaires, et notamment à ces équipements dits annexes, plus larges. Et c'est aussi une manière de considérer les solidarités qui pourraient se faire entre les étudiants.
Merci beaucoup. Pour poursuivre sur cette question que vous avez amorcée autour de la dette et de l'état de l'économie, je donne maintenant la parole à Mira. Donc Mira, qui a 20 ans, qui habite Paris et qui est étudiante en droit, qui va nous livrer quelques éléments sur les propositions autour de l'économie.
Alors, Monsieur Martin, bonjour. Donc, après le travail réalisé par la Fabrique citoyenne, nous avons dégagé les 3 grands points qui nous tenaient le plus à cœur au sujet de l'économie. Donc, tout d'abord, nous souhaiterions une reprise en main de l'économie par les citoyens. Donc, ça passerait par la transparence des finances, qu'elles soient privées ou publiques, ou encore même par un apprentissage de l'économie, par une éducation de l'économie. De plus, nous aimerions une reconversion écologique qui apporterait un nouveau souffle à l'économie en répondant aux défis lancés de manière innovante et créatrice d'emplois. Enfin, nous voulons une économie plus juste, permettant une meilleure répartition des richesses. Donc, suite à la lecture de nos travaux, je vais vous poser la même question que Claire et je vais vous demander de nous faire part de vos points positifs, de ce que vous avez trouvé positif dans ce que vous avez lu, mais surtout de ce que, enfin, on aimerait vraiment savoir ce que vous avez trouvé négatif là-dedans, ce qui vous a déplu. Voilà, merci.
Négatif ou qui vous pose question.
Très bien. D'abord, je voudrais vous dire que sur cette question économique, vous n'avez pas fait l'erreur que font beaucoup de vos aînés, et c'est-à-dire d'aller chercher dans nos problèmes économiques les difficultés ailleurs. Je n'ai lu nulle part chez vous que c'était la faute de la Chine, des étrangers, de la finance internationale, de la mondialisation, du capitalisme international. Vous cherchez des réponses et des questions qui sont avant tout en France et en Europe. Et je crois que c'est la bonne manière d'appréhender les choses que de trouver des solutions à l'échelle de ce qui est palpable et de ce qui est probablement la réalité et de ne pas s'inventer des ennemis invisibles qu'on ne peut par conséquent pas combattre. Il y a, puisque je l'ai dit sur les valeurs, puisque j'ai parlé des corps intermédiaires, puisque j'ai parlé de la solidarité qui fonde le projet de François Bayrou, tout ce que vous proposez en matière de participation des salariés à la vie de l'entreprise, place des salariés dans les conseils d'administration, oui, avec voix délibérative, oui. Place des salariés dans les comités de rémunération, oui, avec voix délibérative, oui, évidemment. Élargissement du rôle des CE, oui, triple oui, triple oui. Donc, je ne m'étale pas là-dessus, parce que nous sommes d'accord, et qu'il faut que dans ce nouveau modèle, on ait des choses où on arrête chacun d'être de son côté, chacun pour soi. Où les salariés, l'entreprise, il faut se dire cette chose-là, et François Bayrou l'a dit, l'a écrit sans problème, n'appartient pas qu'à ses actionnaires. Elle appartient aussi à ses salariés, elle appartient aussi à la société, et il est question que, justement, cette appartenance, ce partage de cette responsabilité, elle se fasse de manière apaisée, et donc par la démocratie, par les institutions internes à l'entreprise, et pas par le rapport de force, autant que faire se peut. Si on doit y arriver, les syndicats feront leur boulot, mais essayons de construire des rapports apaisés. Sur la question du travail et de l'emploi, je vais m'arrêter sur favoriser l'entrée des jeunes sur le marché de l'emploi. Il y a une mesure phare qui est celle de François Bayrou, que je vous rappelle, qui n'est pas strictement celle que vous proposez. Alors c'est pour ça que je vous dirais, je ne suis pas d'accord, mais je vais vous proposer quelque chose à la place, qui s'appelle le 1 emploi sans charge pour toutes les PME de moins de 50 salariés. Si toutes les PME de moins de 50 salariés qui voudront recruter un jeune qui n'a jamais accédé à l'emploi ou quelqu'un qui est aujourd'hui en période de chômage pourra recruter un emploi avec aucune charge. C'est-à-dire on est vraiment dans un mécanisme qui va stimuler l'embauche de ceux qui sont le plus éloignés de l'emploi, c'est-à-dire ceux qui sont au chômage ou ceux qui n'ont pas encore eu leur première expérience. C'est la manière dont on souhaite... Je vais y répondre à cette question. Sur les CDD abusifs, François Bayrou l'a dit, respect strict du rôle et retour au rôle vraiment du CDD, remplacement court terme, mission court terme, et pour le reste, on doit réussir à arriver à ce qu'on appelle un contrat de travail unique, qui sera le CDI, avec des droits progressifs et sur lequel les salariés pourront composer des droits, et notamment des droits à la formation, notamment des droits, évidemment, à la retraite, comme c'est naturel. Je regarde parce que finalement je suis d'accord avec beaucoup de choses. Qu'est-ce que j'avais barré ? Pas tant de choses que ça, vous voyez. Il y a des...
Vous êtes une très généreuse agence de notation, que des triples oui,
que des triples oui,
pas de dégradation.
Vous avez vu ? Si, voilà, bah voilà, typiquement, je peux vous dire sur vous parlez de la taxe sur les transactions financières qui irait financer le budget européen. Alors, cette taxe sur les transactions financières, on y est favorable. En revanche, on ne la flèche pas, comme vous, exclusivement sur le budget européen. On la flèche aussi sur l'aide aux pays du Sud, et notamment la lutte contre les grandes pandémies. Vous savez que Philippe Douste-Blazy, qui préside United et un certain nombre de. Et qui travaille à l'ONU sur les financements innovants et la lutte contre le sida, l'accès à l'eau dans les pays du Sud, fait partie des proches de François Bayrou et a beaucoup plaider auprès de lui pour ça. Et donc, typiquement, voilà, je peux dire, on n'est pas d'accord avec vous là-dessus. Ça ira financer pas que le budget européen, mais aussi l'aide aux pays du Sud. Sur l'économie verte, je vais aller très rapidement. Le projet qu'on porte, cette question ne peut pas être réglée à l'échelle nationale. Il faut évidemment un effort là pour le coup européen. Il faudra convaincre nos partenaires européens d'une contribution carbone européenne. Je crois que ce qui est en train de se passer avec la Chine et Airbus, si vous avez suivi ça, est un moment qui va être difficile à passer mais qui est utile, parce que sans l'Europe, si c'était la France seule qui essayait de faire ça face à la Chine, le combat serait perdu d'avance. Grâce à l'Europe, on est capable d'avoir ce genre de grandes négociations. Il faudra le pousser et il faudra le pousser et je vais faire une transition du coup toute trouvée. Il faudra pas le pousser à 2, France et l'Allemagne. Il faudra le pousser à 27. Il faudra retrouver une Europe réellement coopérative et communautaire et pas un condominium de deux pays qui dirigent l'Europe, parce que ça n'a jamais été ça l'esprit européen. Et ça me donne une transition.
Merci. Tout trouvé, effectivement. Donc, sur la question de l'Europe et encore plus particulièrement la question de la citoyenneté européenne qui était au cœur des propos, je passe la parole à Jean-Rémy. Donc, Jean-Rémy qui est moniteur d'escalade et qui habite Marseille, qui a 20 ans.
Bonjour, Monsieur Petit.
Martin.
Monsieur Martin, c'est pas grave. Monsieur Petit, ça me va aussi. Mais...
Bonjour, monsieur Martin. Je sais pas pourquoi j'ai dit monsieur. Désolé, c'était pas volontaire. Désolé. Mais bonjour, monsieur Petit. Donc, je vais vous exposer les propositions que nous, les jeunes de la Fabrique, avons retenues en matière de citoyenneté européenne d'aujourd'hui et pour demain. Donc, préalablement, tout d'abord, si on veut que les citoyens se sentent européens, il faut les encourager à travers des occasions européennes pour faire connaître l'Europe. Donc, cela passe notamment en renforçant le sentiment européen à travers l'éducation, en rassemblant les citoyens à travers des symboles et en sensibilisant à travers la communication, surtout. Ensuite, il faut leur donner davantage d'occasions de débattre sur les sujets de l'Europe et sur ceux qu'ils souhaitent. En effet, cela passe par des droits de vote élargis, davantage d'élections directes et de démocratie participative. Pour nous, cela doit servir à infléchir le projet européen pour une Europe plus durable et plus solidaire. Donc, je vais vous poser la même question. Sur quelle proposition que nous avons formulée souhaitez-vous réagir ?
Je sais que c'est terrible parce qu'on parle d'Europe, j'aimerais qu'on parle plus souvent des grands projets de modèle social, de grands investissements européens. Mais finalement, il va falloir parler des institutions parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes est celui-là. Alors, je ne vais pas m'arrêter plus avant sur la communication. Il y a plein d'idées que je trouve très créatives. Je ne sais pas formellement ce que pense François Bayrou d'un dessin animé ludique sur l'Europe. Probablement, il trouve ça très sympathique. Je vais aller sur les questions un peu délicates. Moi, je trouve que tout ce qu'on pourra faire de toute façon en communication sous toutes les formes possibles pour favoriser l'appartenance européenne sera le bienvenu. Cependant, sur la question européenne, il y a une question aujourd'hui qui devient de plus en plus prégnante, c'est que le sentiment d'appartenance des Français à l'Europe, et d'ailleurs de tous les citoyens européens à l'Union européenne, ne pourra se faire que quand ils se sentiront pleinement acteurs de ce qui se passe. Qui dans cette salle connaît Herman Van Rompuy ? On est à la moitié, alors que vous êtes ici des responsables associatifs impliqués, qui avaient bossé, imaginé dans la société française. Et pourtant, c'est celui, l'un de ceux qui a une des places les plus importantes dans l'Union européenne. Qui connaît Catherine Ashton ? À peu près les mêmes. C'est quelque chose de dramatique. On a fait des institutions européennes pour qu'elles soient compliquées, pas lisibles, et surtout, et là il y a une vraie responsabilité de Nicolas Sarkozy et d'Angela Merkel, particulièrement pour mettre à la tête de ces institutions des gens qui sont transparents. De sorte qu'ils ne fassent pas d'ombre aux dirigeants nationaux. Et de sorte qu'on puisse diriger l'Europe, non pas de manière communautaire, non pas avec un vrai moteur de l'idée européenne, mais uniquement avec la somme des intérêts nationaux, comme on l'a fait par exemple dans la gestion de la crise. Et donc la première priorité, elle sera celle-là, ça sera de donner à l'Europe des institutions transparentes, claires pour les citoyens, démocratiques et légitimes. Et il n'y a qu'un seul moyen pour qu'elles soient démocratiques, claires, légitimes. Et pour que les citoyens aient le sentiment qu'ils aient eu leur prise dessus, c'est d'avoir un vrai président, d'ailleurs, qui sera un président du Conseil et un président de l'Union dans un seul et même poste, qui sera élu démocratiquement au suffrage universel de tous les citoyens européens, pour que tous les Européens puissent se dire « J'ai un président européen, et c'est moi qui l'ai choisi, et c'est nous qui l'avons choisi dans les 27 pays de l'Union. » Et on sait ce qu'il veut faire, d'ailleurs. Et on connaît ses grandes orientations, et on connaît ses grandes qualités. Sans ça, sans avoir mis un peu de clarté et de lisibilité dans le projet européen et dans les institutions européennes, on n'arrivera pas à ce que les gens s'y remettent et on retombera dans les travers habituels d'une Europe qui, malheureusement, de plus en plus, par la faute des gouvernants, marche comme la somme des intérêts nationaux et pas comme la création d'un véritable intérêt commun et collectif européen. Cet intérêt collectif commun européen, je vais y venir pendant quelques secondes, c'est évidemment l'environnement. C'est les grandes questions qu'on va pouvoir régler à l'aune de la planète. La question environnementale particulièrement. Il y a la question de la fiscalité que j'ai invoquée, mais il y a aussi les grandes questions industrielles. L'Europe doit pouvoir demain faire naître sur son sol un grand EADS, par exemple, mais de l'énergie renouvelable. Un grand industriel, comme on a su le faire sur Airbus, comme on a su le faire sur EADS. Il faut que l'Europe demain, parce qu'elle a ce souffle-là, parce qu'elle a cette envie, crée un grand... un grand industriel des énergies renouvelables. C'est à l'échelle de l'Europe qu'on pourra régler les grandes questions de stabilité financière, parce que tant qu'on n'aura pas donné des institutions légitimes, redonné une Cour des comptes européenne qui va être capable de garantir les prêts des États, mais qui en même temps assurera non pas l'austérité, non pas la rigueur, mais au moins la transparence, au moins la véracité des comptes et de respect des engagements qui sont ceux des engagements européens, et notamment du traité qu'on va signer dans quelques semaines. Voilà, je crois que la question européenne, elle est comme ce dont je parlais au tout début de mon intervention, elle a rebesoin d'un idéal, d'un modèle de société, et donc c'est le modèle européen, il est clair, c'est le modèle justement, à contrario d'autres parties du monde, de la solidarité lui aussi, de l'humanisme, c'est la tradition historique de plusieurs siècles en Europe, c'est, je crois, un modèle qu'on a à bâtir entre l'argent roi, qui est peut-être les sociétés nord-américaines, et le tout-État, qui a été essayé par-ci et par-là à travers le monde, et c'est une société fameuse... sociale, économie sociale et solidaire, c'est l'idéal, mais on ne pourra le faire que quand les citoyens auront retrouvé des institutions claires et lisibles.
Merci beaucoup, Monsieur Martin. J'ai encore une dernière question, et je me fais maintenant le relais du groupe pour vous la poser. Cette question, vous en serez vous aussi l'intermédiaire. Si François Bayrou est élu président de la République, est-ce que vous pensez qu'il serait prêt à recevoir les membres de la Fabrique citoyenne pour discuter avec eux de toutes ces propositions et de cette effervescence intellectuelle qui a été la leur, mais surtout une effervescence intellectuelle qui a été collective, et peut-être réfléchir plus avant à la faisabilité et la mise en œuvre de quelques-unes des propositions.
Alors, je n'ai pas l'agenda de François Bayrou à partir du 6 mai. Je ne veux pas m'engager en son nom ou pas. Je crois que c'est évidemment des initiatives qui regardent. Je me dois à la vérité, puisque François Bayrou a dit qu'on faisait une campagne de vérité, que vous n'êtes pas les seuls à avoir plein d'idées, plein d'innovations, et qu'il faudra trouver cette place-là. Et là encore, je m'arrête quelques secondes sur la question des institutions, mais il faudra trouver des nouvelles institutions, en tout cas rénover les institutions qu'on a aujourd'hui pour laisser les corps intermédiaires, la société civile, les associations insuffler beaucoup plus. Il faudra se poser la question du Conseil économique, social et environnemental qui est aujourd'hui dans les textes un très bel endroit où la société civile vient insuffler le politique, mais qu'on n'écoute pas assez, peut-être qui n'est pas assez central, peut-être dans lequel on n'a pas su mettre le lien qu'il fallait avec l'activité parlementaire. Je crois que François Bayrou, oui, il sera à l'écoute de toutes les initiatives. Vous garantir là, vous signer, il prendra un rendez-vous, je ne le ferai pas à sa place, ça serait malhonnête et purement clientéliste et démagogue de ma part, donc je ne le ferai pas, et je ne dis pas qu'il ne le fera pas non plus. Je dis juste que ça soit sur la question de la préservation des générations futures, sur la dette, sur l'environnement, sur la question des déficits, sur la rénovation de la vie politique et publique, pour y rentrer des associations, pour avoir plus de jeunes, pour avoir plus de femmes, pour avoir plus de personnes issues de la diversité, François Bayrou est le seul à avoir pris un engagement aussi clair. Le 10 juin, si François Bayrou est élu le 6 mai, le 10 juin, le jour du premier tour des législatives, il propose au pays un référendum complet, en 12 points, rénovation de la vie politique. Et tous les chantiers qui n'ont pas avancé depuis 20 ans, parité, non-cumul des mandats, conflit d'intérêts, rééligibilité des élus corrompus, transparence des comptes des partis politiques, micro-partis, tout ça, le 10 juin, serait réglé en un référendum, parce que j'ai comme le sentiment que d'autres familles politiques sont moins à l'aise à l'idée de... alors que c'est ce que veulent, je crois, les citoyens, d'un coup, d'un seul, mettre la parité, le non-cumul des mandats, un peu de proportionnel à l'Assemblée pour qu'une partie des 40 ici rentre à l'Assemblée nationale en 2012 ou en 2017. On sait qu'on aura besoin de la proportionnelle, on sait qu'on aura besoin d'une véritable parité. Et je crois que ce référendum-là, il fait partie d'un des gestes très forts que François Bayrou fera à l'égard de tous ceux et celles qui veulent s'impliquer dans la vie publique et qui, aujourd'hui, sont victimes d'un système institutionnel qui, visiblement, ne leur laisse pas leur place.
Merci beaucoup pour ce rendez-vous le 10 juin. Merci. Merci beaucoup du temps passé avec nous.
C'était Jean-Noël Martin représentant le MoDem qui se voyait confronté aux propositions de la Fabrique citoyenne le 17 février dernier lors du forum AnimaFac à la Villette. Retrouvez tous les jours à 18h30 jusqu'à dimanche sur le 88.8 FM un candidat différent ou son représentant confronté aux propositions politiques de la jeunesse française. Rendez-vous dès maintenant sur la page Fabrique citoyenne sur radiogrenouille.com pour retrouver l'intégralité de ces débats et toutes les informations sur ce dispositif original de participation citoyenne. Restez à l'écoute sur Radio Grenouille.